Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Déborah, bonjour.
Bonjour Virginie.
Comment ça va aujourd'hui?
Eh bien très bien. Écoutez, ça va bien. Bon. Tant qu'on a la santé, on va bien.
Eh bien c'est bien. C'est avec vous qu'on va voir et qu'on va parler alimentation. Mais pas que, puisque vous êtes diététicienne et nutritionniste. Et à ce titre, vous nous abreuvez de conseils et d'informations sur mieux consommer, comment consommer, notre rapport à la nourriture également. En bref, avec vous, nous culturons, consommons. Je ne sais pas si ça existe.
Oui, ça peut le faire.
Voilà, en tout cas, c'est ce que vous m'inspirez, Déborah.
Voilà. J'en suis heureuse.
Voilà, donc bien sûr, on ne se substitue pas à un médecin. En cas de doute, bien sûr, il faut consulter, c'est normal. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, Déborah?
Eh bien, je vais vous parler du goûter, de la place du goûter dans notre alimentation.
Ça, c'est bien.
J'ai pensé utile de faire justement un sujet sur ce thème, sur le goûter ou encore appelé collation, parce que je me suis aperçue que beaucoup de personnes confondent le goûter avec le grignotage. Et de ce fait, elles vont s'interdire souvent d'en prendre un, alors qu'il serait assez favorable à équilibrer leur rythme alimentaire. De cette interdiction peut souvent en découler une perturbation de l'alimentation et même de la prise de poids. Donc, j'aimerais donc qu'on échange aujourd'hui sur le sujet du goûter, déjà en clarifiant et en faisant la distinction entre goûter et grignotage, et en précisant la place que peut avoir le goûter ou que devrait avoir le goûter dans notre alimentation.
Alors c'est vrai, oui, on peut se poser plein de questions parce que grignotage et goûter, en fin de compte, on se dit, ben, on mange un petit quelque chose, pas forcément important, et puis à peu près au même moment. Alors est-ce qu'il y en a un qui diffère de l'autre? On ne sait pas. Voyons, quelles sont les différences, Déborah?
Et bien sûr qu'il y a quand même une grande différence. En fait, grignoter, en réalité, c'est manger en continu sans réelle nécessité. Par exemple, je vais aller manger un petit bout de pain. Deux minutes après, je me relève, je mange une pomme. 10 minutes après, je me relève, je mange une tomate, etc. Ça, c'est du grignotage. On apporte donc de la nourriture à notre corps de façon continue. En général, les grignotages cachent une autre difficulté, mais ça pourrait être le sujet d'une autre émission.
Tout à fait.
À la différence du goûter ou collation, qui est, lui, un apport alimentaire bien structuré sur un temps bien donné, en une seule prise donc. Donc le goûter tient une place assez importante dans notre alimentation, car il est avant tout présent pour travailler ce qu'on appelle notre gestion de faim. La gestion de faim, en fait, c'est ce qui permet de trouver le bon rythme, notre bon rythme alimentaire, c'est-à-dire les moments fonctionnels et idéaux pour prendre nos repas. Puisque, je vous le rappelle d'ailleurs, je fais toujours des petits rappels comme ça.
C'est bien, une piqûre, ça ne fait pas de mal.
Eh oui, nous n'avons pas tous et toutes les mêmes besoins en rythme alimentaire. C'est-à-dire que le besoin en nombre de repas par jour n'est pas tout le temps identique et ne doit pas être identique de chaque personne en chaque personne. Même si la société nous laisse entendre le contraire et nous force en fait à suivre des horaires de repas identiques ou en tout cas très proches. Et donc pour nous mener au rythme qui nous serait idéal, c'est-à-dire qui nous laissera avec la meilleure maîtrise alimentaire, nous pouvons être amenés à introduire très souvent même une ou plusieurs collations au cours de la journée, à des moments en général plutôt stratégiques.
Alors là, vous avez parlé de collation, donc on était sur goûter et grignotage. Collation, c'est proche du goûter ou du grignotage?
En fait, c'est un synonyme. Une collation, c'est un goûter.
D'accord.
C'est un synonyme du goûter, c'est une autre appellation. Uh-huh. Grignotage, c'est quelque chose de complètement différent.
Oui.
Mais il y a beaucoup de confusion là-dedans. J'ai beaucoup de patients qui me disent « Ah bah non, je ne mange pas entre les repas, je ne grignote pas. » Sauf que ça peut être un peu problématique de ne pas faire de collation.
Dans la mesure où vous parliez justement de goûter, grignotage, alors grignotage c'est un peu tout au long de la journée, le goûter ça doit être à des moments bien précis, les collations j'imagine donc aussi. Donc est-ce que ça veut dire que ça ferait 4 repas par jour si on doit vraiment l'intégrer?
Ah oui, mais on peut être à 4, on peut être à 6 repas, on peut être à 7, ça dépend vraiment de chaque personne. Le nombre de repas, on va le rappeler tout à l'heure, mais c'est très culturel. Et c'est propre à chaque personne. Justement, on n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas les mêmes besoins entre êtres humains et tous les jours. Mmh. Et donc, d'où l'intérêt de travailler sur ce qui fonctionne pour soi et pas de travailler sur des plans ou des programmes alimentaires, par exemple.
D'accord, oui, c'est vrai qu'il vaut mieux personnaliser en fait ses besoins en fonction de qui on est, de ce dont on a besoin, ce dont notre organisme a besoin. Eh bien écoutez, on va en reparler juste après la petite pause, Déborah, et puis j'en profite pour vous signaler d'ailleurs que si vous le souhaitez, auditeurs et auditrices, réagir ou poser des questions à Déborah, eh bien pour cela un numéro, le 06 66 94 59 02, ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Nous retrouvons eh bien Déborah sur la place du goûter dans l'alimentation. C'est bien, on mange avec vous Déborah. Vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit d'ailleurs également aussi le corps et l'esprit. Donc on ne parle que de nourriture là aujourd'hui. On parlait justement de donc grignotage, goûter, collation juste avant la pause. Est-ce qu'on peut parler de restriction également peut-être par rapport à ce qu'on pourrait imaginer dans le cerveau, comment ça se passe?
Et oui, bien sûr, parce que c'est ce que je vous disais, en fait, le problème est que bien souvent, les personnes s'interdisent de grignoter parce qu'elles assimilent la collation comme étant un grignotage. Elles se disent que faire une collation ou goûter entre les repas, c'est grignoter. Mmh. Et donc déjà, la clarification est importante, on l'a vu juste avant, et c'est une sorte de restriction, en fait, quelque part assez rigide, qui les amène à ne pas manger sur des temps qui sont importants pour elles. Nous avons également cette problématique de vouloir manger sain, vous savez, oui, absolument tout le temps, mmh, et au risque en fait de ne pas pouvoir le faire dans certaines situations. Certaines personnes vont volontairement ne pas manger parce que les aliments dont elles disposent sur ce moment pour le goûter, pour prendre un goûter, ne sont pas sains selon leurs critères de diabolisation alimentaire. Donc, sans parler des personnes qui oublient de manger pour avancer dans leur travail. Vous savez, oui, j'en ai de plus en plus.
Ça, c'est encore autre chose.
Personnes qui s'oublient, elles s'oublient totalement. Elles ressentent la faim, elles ressentent le besoin, mais elles préfèrent faire passer leur travail en priorité avant leur santé. Et très souvent, ça leur joue des tours, ça.
Oui, puis en plus, il faut bien donner de la nourriture au cerveau en même temps.
Mais oui, c'est le paradoxe, c'est que si on ne se nourrit pas bien ou qu'on est affamé pendant qu'on travaille, on ne va pas être aussi productif que si on se nourrit bien. Oui. Et donc, ces personnes, justement, elles arrivent très souvent affamées, avec une intensité de faim démesurée, aux repas qui vont suivre, et ce qui peut provoquer une compulsion alimentaire, hein, c'est le sujet qu'on va voir la semaine prochaine, ça, par une mauvaise gestion de faim, qui va les faire manger donc plus que nécessaire, et donc va générer une mauvaise gestion en réalité des excès alimentaires et de la prise de poids. En consultation de diététique comportementale, ce travail-là sur la gestion de faim, c'est un travail qui est central, car il permet justement d'anticiper plusieurs dérives et surtout de mieux se connaître et de se comprendre pour pouvoir mettre en place le meilleur rythme alimentaire qui soit pour nous.
Vous parliez justement de personnes qui vont se retrouver affamées au repas, ce qui va provoquer cette compulsion alimentaire finalement. Alors le fait qu'elles vont être affamées, elles vont évidemment manger beaucoup plus vite. Et donc ça aussi c'est important, il paraît qu'il faut bien mastiquer.
Oui, en fait, plus on va manger vite de manière générale, moins notre corps va pouvoir sécréter l'hormone de la satiété. Et donc, du coup, on ne va pas percevoir le moment où notre corps nous dit stop, on ne va pas percevoir la limite. Et donc, finalement, ça va nous faire manger des quantités beaucoup plus excessive que nos vrais besoins.
J'aimerais qu'on fasse bien cette différence, puisque vous parliez de goûter qui peut être à plusieurs moments, ce qui n'est pas du tout le cas du grignotage. Alors ce goûter, puisqu'on peut l'apprendre à plusieurs moments dans la journée, comment faire en pratique ?
Perso, il me semble assez important de s'observer dans sa façon de manger. Observer déjà si on mange en réponse à une faim ou juste pour suivre des horaires. Observer si on éprouve du plaisir quand on mange. Justement, on l'a vu, si est-ce qu'on a l'impression de manger relativement vite? Est-ce que nous arrivons à percevoir nos ressentis alimentaires de rassasiement ou non? Et si nous ressentons une fatigue, etc. En fait, s'observer de façon générale. Et pour pouvoir s'observer, c'est important de porter attention à nous.
Alors, pas devant le miroir, bien évidemment.
Oui, bien sûr, s'observer. On pourrait imaginer qu'on a un petit miroir devant nous. Mm-hmm. On n'est pas obligé de noter forcément, mais on peut imaginer qu'on a une sorte de petite caméra qui est en train de nous filmer et se dire, qu'est-ce qu'on pourrait voir de moi déjà d'un point de vue extérieur? Est-ce que je mange plutôt vite? Est-ce que je suis dans mes pensées? Est-ce que je suis connectée à moi? Mm-hmm. Et on peut s'observer, se dire, oui, il y a une y a un petit miroir intérieur qui est là. Oui, autrement dit, en fait, c'est observer en réalité si notre état physique et mental nous permet d'avoir de la maîtrise sur nos choix alimentaires et notre façon de les ingérer. Et ça, c'est possible très souvent quand on a un contexte de repas donné. C'est-à-dire que si on va manger en train de bosser, en train d'écrire un truc sur l'ordinateur, c'est très difficile de percevoir ces critères-là. Donc, c'est important de faire souvent des connexions à soi. Ça, c'est la première chose qui me paraît indispensable. Oui. Ensuite, il me paraît utile d'introspecter notre corps, justement, assez régulièrement au cours de nos journées pour comprendre et entendre ce dont nous aurions besoin, comme par exemple une faim, c'est-à-dire par exemple faire plusieurs petites pauses, même de 2 minutes, pour se dire, est-ce que j'ai besoin de manger? Est-ce que j'ai besoin de boire? Est-ce que j'ai besoin de faire une pause? Est-ce que je suis fatiguée? Faire introduire en fait des introspections corporelles plusieurs fois par jour. Et donc, dans cette introspection, un petit peu dans ce fait de ralentir, on peut aussi observer s'il est un... En fait, on peut aussi tester différents rythmes alimentaires. C'est-à-dire, quand on va ralentir, on va peut-être observer des choses qui vont peut-être nous amener à tester différents rythmes alimentaires pour trouver celui qui nous correspond le mieux. Par exemple, casser la routine à manger systématiquement un petit-déj, un déjeuner ou un dîner. Essayer de décaler les horaires, sauter des repas ou justement introduire des collations à certains moments pour voir si nous en ressentons le besoin déjà. Mmh. Et si on se sent plus en forme, si on se sent plus concentré. La routine, en fait, en mode robotique, et sans réflexion et sans conscience, c'est un piège dans l'alimentation.
En fait, il faudrait presque faire comme les animaux, manger quand on a faim. Nous sommes des animaux, après tout.
Mais physiologiquement, en réalité, c'est ce qui est souvent conseillé. Bien évidemment qu'on ne peut pas, et j'attire l'attention sur ce point, parce que c'est une dérive de ce qu'on appelle l'alimentation intuitive, mais qui a beaucoup de limites. On ne peut pas manger tout le temps, uniquement, que quand on a faim. En réalité, la faim, c'est un critère important à prendre en compte au moment des repas, mais ça n'est pas le seul critère. Mmh. Il y a des moments où on ne peut pas manger, on a faim, il y a une réunion professionnelle extrêmement importante qui se déroule, je vais avoir faim, je ne vais peut-être pas dire à mes collègues, écoute, moi je vais manger, fais ta réunion seule. Vous voyez, il y a des situations où en fait on ne peut pas, on s'ajuste.
On va amener le casse-croûte pendant la réunion, c'est moyen.
Ouais, il y en a qui le font, mais c'est vrai que ce n'est pas des moments où on est attentive à soi, non, on est plutôt attentive à ce qui se passe qu'à soi. Et donc, ça, casser la routine, c'est quelque chose d'assez important. Et si une collation s'avère nécessaire, on observe qu'une collation est intéressante, ben je conseille tout simplement d'en prévoir plutôt des transportables et surtout des adaptés, parce que si on a une faim plutôt élevée et qu'on mange quelque chose de très léger, ça ne va pas vraiment être fonctionnel, ça ne va pas nous tenir. Mmh. Donc, sans oublier aussi qu'il est tout à fait OK d'introduire une collation, même si nous n'avons pas faim. C'est ce qu'on vient de dire, en fait. Juste pour le plaisir, tout à fait ne pas avoir faim, et puis avoir envie de se faire un petit kiff alimentaire, et on s'achète quelque chose et on le savoure. À partir du moment où on en est conscient, ça ne pose pas de soucis.
On va être conscient d'une petite collation là tout de suite, on va faire une petite pause. Alors justement, avant que vous nous parliez d'exemples de collation, puisque vous nous avez dit, voilà, je vous conseille d'en prévoir des transportables. Alors ça peut aller du yaourt à la banane, je ne sais pas, vous allez nous dire tout ça après la petite pause. On va voir. Et en tout cas, je vous laisse profiter d'une collation, d'un goûter et non pas d'un grignotage. Et on se retrouve juste après une petite pause. Donc.
Tout va bien. Mangeons, Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Nous sommes de retour en compagnie de Déborah sur Nutri Radio, la radio qui soigne le corps et l'esprit. Aujourd'hui, on mange beaucoup, on fait de la collation, puisque le thème de cette semaine avec vous, Déborah, c'est justement le goûter. Alors, nous avions parlé juste avant de collation qui s'avère être nécessaire et vous conseillez d'en prévoir peut-être même des transportables, au cas où, ou en tout cas de les adapter selon les moments où on éprouve une certaine faim. Alors, qu'est-ce que vous auriez à nous proposer comme exemple de collation?
Eh bien oui, en réalité, si on voulait faire les choses comme il faudrait les faire, la composition de la collation dépend beaucoup de l'intensité de faim qu'on va ressentir et du temps qu'on a à attendre avant notre prochain repas. Dans tous les cas, je conseille toujours de commencer par boire. Parce que des fois, on peut, alors surtout dans les fortes chaleurs comme en ce moment-là, des fois, on peut en fait se retrouver à avoir soif, mais on confond la soif avec de la faim et vice-versa. Surtout quand on n'a pas l'habitude d'être connecté avec notre corps. Donc, si nous buvons et que nos ressentis corporels, physiologiques disparaissent assez rapidement, eh bien, c'est que c'était de la soif et pas de la faim. Et dans ce cas-là, introduire une collation, c'est pas forcément utile. Donc ça, c'est très important déjà avoir tout
pas
le
évident,
temps.
Hein. Pas évident quand même à savoir ça.
C'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. Plus on va être connecté à soi, plus ça va être intuitif en fait, pertinent, et donc plus ça va être évident. Si nos ressentis persistent, c'est-à-dire qu'on boit de l'eau mais qu'on a toujours les mêmes ressentis physiologiques, et ben à ce moment-là, on va rajouter à cette boisson quelque chose pour tenir. Donc, si le repas est assez proche, par exemple dans les environs d'une demi-heure, une heure, qu'on ressent un petit creux et que ce petit creux est inconfortable pour nous, parce que ça peut être complètement gérable pour certaines personnes et pour d'autres personnes pas du tout confortable, eh bien, à ce moment-là, une collation assez légère sera fonctionnelle comme... alors, souvent, une collation avec une seule composante, comme un fruit, comme un laitage, comme une compote, quelque chose, en fait, de très léger qui va nous permettre de tenir dans les 30 minutes, une heure maxi. À l'inverse, dans le cas où nous devrions attendre assez longtemps, c'est-à-dire plus de 2 heures avant le prochain repas, on est là, on a notre repas dans 2-3 heures, en fait, il faut vraiment constituer une collation consistante et optimale.
Oui, un truc qui cale.
Un truc qui cale, effectivement. Parce que moi, j'ai plein de patients, ils me disent, j'avais super faim, j'ai mangé un fruit. Bah non, en fait, c'est pas ajusté. Donc, en général, je conseille une boisson avec 2 composantes, dont une composante avec un féculent. Par exemple, on peut, alors ça dépend de ce qu'il est possible de se faire, hein, mais on peut se faire une espèce de bowl sur la base d'un fromage blanc ou d'un skyr avec 2-3 poignées de céréales. Et des céréales type muesli, céréales...
Oui, on évitera toutes les pâtisseries, les choses de ce genre.
Mais c'est une pâtisserie, ça peut tout à fait être fonctionnel. Si on a envie d'une pâtisserie, ça cale une pâtisserie.
Ah oui.
Je vous défie de prendre une religieuse au chocolat, je vous assure que vous êtes calé un certain temps. Vous pouvez prendre une part de tarte salée ou sucrée, ça cale.
C'est dit.
Alors, ça va pas caler comme si c'était... quelque chose
un sandwich
comme un sandwich exactement, mais ça va quand même caler beaucoup plus qu'un fruit.
Oui.
Donc ça peut être un bowl, ça peut être si on dispose, alors bien sûr si on dispose pas d'un frigo à proximité, ça peut tout à fait être un petit pain artisanal, vous savez, des petites boules de pain qu'on peut trouver dans les boulangeries là.
Ah oui,
avec des pépites de chocolat.
Oui, oui. Il y a même au fromage aussi. D'ailleurs des choses comme
il
ça,
au fromage, aux olives, et c'est intéressant parce que c'est portionné et c'est plutôt rassasiant. Et on peut compléter ça avec un fruit ou justement une part de cake salée ou sucrée avec une compote, par exemple, ou un laitage. Enfin, ça dépend ce qu'on a de possible. Ça peut être aussi tout à fait une poignée d'oléagineux. Ça, c'est des choses qu'on peut transporter ou des biscottes, des choses comme ça. Dans ce cas précis, nous avons besoin de tenir donc compte de notre collation et on doit vraiment être attentif au fait que notre collation doit être conséquente. Et je dis ceci justement parce que j'ai beaucoup de patients qui mangent en décalé en fait. J'ai super faim, je mange un fruit, ou j'ai très 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 faim, enfin ou j'ai très peu faim, je mange un sandwich. C'est pas ajusté. Mm-hmm. Et donc pour pouvoir que ce soit ajusté, faut s'introspecter, faut s'interroger. Donc si par exemple un fruit, parce que moi mes patients qui me disent j'avais hyper faim, j'ai pris un fruit, ça m'a calé. Et je suis un peu sceptique sur l'utilité de la collation. Si un fruit qui permet de caler 3 heures, c'est que c'était peut-être pas de la faim. Il y avait peut-être quelque chose de mélangé à l'intérieur.
Et ça dépend du fruit. Oui, ça dépend du fruit parce que finalement, une pomme, c'est vrai que quand on y regarde bien, une petite golden, ça tient quand même plus que 3-4 mûres ou 2 cerises. Et une banane aussi, c'est quand même.
Oui, bien sûr, la banane, vous avez un peu d'amidon dedans. Donc oui, il y a des fruits qui vont tenir plus, mais de manière générale, le fruit, c'est un glucide simple. C'est pas quelque chose qui va tenir de très longtemps.
C'est assimilé très vite, en fait.
Mais effectivement, une clémentine va moins bien tenir qu'une banane, bien sûr. Bien sûr. Mais
donc, il faut rajouter des amandes. On peut rajouter des amandes, des noisettes.
On peut rajouter des oléagineux, bien sûr. Mm-hmm. Amandes, noix, noisettes. On peut rajouter une ou deux biscottes avec quelque chose de gras dessus. C'est mm-hmm. intéressant, quand on prend du pain ou des biscottes, il faut rajouter quelque chose de gras dessus. De l'avocat, de la purée d'amande, des choses comme ça.
Je rigole parce que je me vois moins avec ma biscotte au bureau avec un petit bout de beurre dessus. Alors que plus facilement, je me verrais bien avec le pain déjà tout prêt, avec du petit lardon dedans déjà.
Ah ouais, mais ça dépend. Après, il y a des gens qui ont des petits frigos au bureau. Il y a des gens. En fait, ça dépend beaucoup des moyens techniques oui. que vous pouvez avoir.
La logistique, c'est important.
Vous.
La logistique, oui, c'est important.
Ben oui, s'il y a un frigo, bah, c'est tout bénef, quoi. Vous pouvez mettre plein de choses dedans et vous gardez plein de trucs.
Oui, oui, tout à fait. Oui, non, mais ça, c'est vraiment bien. Alors donc, du coup, si un fruit, ça suffit à caler, donc c'est que tout va bien.
Bah ouais, je renverrai mon patient à l'introspection. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, quoi ? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose ? Parce que pour qu'un fruit cale 2-3 heures, c'est qu'il y avait autre chose dedans. Mm-hmm. Donc en réalité, le nombre de repas, je vous le disais, hein, et le besoin de collation peut varier de jour en jour. Ce n'est pas systématique, on n'a pas forcément besoin de manière systématique, mmh. au même titre que cela est très propre à chaque personne. Il est vrai néanmoins que lorsque notre vie est assez similaire, chaque jour, si on a des vies qui se ressemblent, d'un point de vue travail ou enfin professionnel, c'est vrai qu'on va avoir faim à peu près aux mêmes alentours horaires. Et encore, c'est vraiment pas une vérité absolue.
Si on devait retenir quelque chose, parce que là encore, on a encore explosé le compteur.
Le temps.
C'est intéressant, donc je pense qu'on nous en voudra pas trop. Mais donc, du coup, si on devait retenir quelque chose par rapport à ce goûter, qu'est-ce qu'on devrait retenir, Déborah ?
Eh bien, encore une fois, l'expérience montre que les croyances alimentaires qui découlent d'une relation à l'alimentation perturbée peuvent accentuer les difficultés alimentaires. Le fait de vouloir s'automatiser et rentrer dans un cadre identique chaque jour, comme si nous étions des machines, est aussi problématique car il nous déconnecte de nos réels besoins nutritionnels. Et en réalité, le goûter est un repas à part entière qui fait partie intégrante de l'équilibre alimentaire, mais qui n'est pas réservé qu'aux enfants, comme on pourrait le croire. Mais oui, dans certains pays, nous mangeons toutes les 2 heures. Hein.
Ah
c'est
bon
ancré dans leur culture. Ah oui, vous allez dans un pays d'Asie.
Ah.
En Asie, en général, dans leur culture, ils mangent toutes les 2 heures.
Oui.
En
France, ils sont minces comme des fils. Hein. Faut pas oublier.
Et
aussi,
oui, ils ont
faut
pas de difficultés. C'est pas ouais. En France, bon bah, je sais pas qui a décrété que le rythme c'est de faire 3 repas par jour à des heures fixes, c'est identique pour tout le monde. Donc en pratique, c'est complètement faux. Et ça dérègle beaucoup l'alimentation de personnes. Donc, ce que je conseille vraiment, et comme toujours d'ailleurs, c'est de s'interroger sur soi et non pas de se caler sur ce que fait notre entourage, même si je sais que ça n'est pas toujours évident et pas toujours possible non plus. En tout cas, tendre vers cela le plus possible est à mon sens une base de sérénité alimentaire.
Merci beaucoup, Déborah, pour cette super émission. On se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas ?
À la semaine prochaine.
Je rappelle donc que cette émission est disponible dans son intégralité à partir de dimanche 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. À la semaine prochaine, Déborah.
À la semaine prochaine.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.